14h demain avec Salut. Denis.
Leclerc Communication, la seule entreprise de radiodiffusion 100% locale et familiale, vous remercie.
La radio à Québec, c'est plus qu'un média d'habitude. C'est un membre de la famille. C'est presque une religion.
Et il n'y a personne de mieux placé que les gens de Québec pour offrir le meilleur combo radiophonique aux gens de Québec.
Week-end 91.9. Boulevard 102.1.
Merci de nous aider chaque jour à faire de la radio locale.
Avec et pour vous.
Parce qu'on vit le même maudit trafic que vous autres.
On mange dans les mêmes restos.
On se croise dans les mêmes festivals.
Notre radio, c'est votre quotidien. Notre quotidien, c'est votre radio. Puis, ben, on changera pas. Promis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Le 60 minutes de ce soir va être exceptionnel, puisque j'ai le plaisir de retrouver un gars que j'ai eu la chance de connaître dans mon ancienne vie radio. C'est un gars qui a fait partie de votre univers pendant des années et des années. Il a marqué plusieurs personnes, j'imagine, par la qualité de ses reportages puis ses interventions, parce que c'était un gars qui passait vraiment pas inaperçu. Et c'était un bon, et il aimait pas les méchants. On aime toujours les Superman. J'ai le plaisir de le recevoir en studio. C'est Martin Evrel, l'ex de TVA. Un gars qui a passé ici à la station aussi pendant quelques années.
Deux ans, ouais.
Comment ça va, Martin Evrel?
Ça va super bien.
T'as pas changé?
Arrête-toi.
T'es-tu figé
j'ai,
dans la
j'ai
glace?
J'ai blanchi un peu.
Ouais. T'es-tu figé dans la glace? À un moment donné, quand on a besoin de toi, tu demandes à ce qu'on monte le thermostat, la glace part, puis là, toi, tu sors.
T'es donc bien fin.
Ouais.
Ben, t'as-tu quoi me demander?
Non, ben là, on a 60 minutes à passer, ça nous prend des choses à jaser. Les années où on te voyait à télé, moi, ça a été des années marquantes. Ça a été des années où je tripais sur le journalisme. Les journalistes qui avaient des gosses grosses comme des bœufs, qui allaient au palais de justice, qui confrontaient les méchant. Moi, tu m'as fait triper pendant des années. Puis quand j'ai su que j'allais faire ce type de podcast-là le soir avec un invité pendant 60 minutes, t'as fait partie de mes premiers choix. Mais ouais. Simonac, t'es tellement dur à rejoindre. T'es plus occupé que le premier ministre du Canada. Ben, mettons, t'es plus occupé que le président des États-Unis, tiens. Puis là, finalement, après deux ans, tu décides d'arriver. Il y a des congelés, puis il est là.
Ben, fait plaisir. Écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai décroché, tu sais.
Ouais.
Et puis, ça fait du bien, là. Ça faisait, tu disais, combien d'années? 35 ans, finalement, de radio et de télé.
Ça fait 35
plus
ans
de télé, bien sûr.
Ouais. Ça
fait 30 ans de télé et 5 ans de radio. Donc, j'ai commencé ma carrière à la radio. Et après ça, j'ai switché pour la télé et j'ai terminé finalement ma carrière parce que j'avais un petit quelque chose là, tu sais, qui me disait « Ah, j'aimerais ça retourner à la radio ».
Ouais.
Puis ça me travaillait depuis des années. Puis là, j'ai eu une opportunité à Boulevard à l'époque, c'était en 2018. Et puis là, j'ai dit « Go ». Je vais finir ma carrière dans le domaine des communications avec un micro à la radio. Waouh!
Wow. Tu es un émotif, toi. T'sais. Moi, je t'entendais parce que j'étais dans une autre station, mais quoi que je t'avais côtoyé dans cette station-là, mais je t'écoutais en secret parce qu'on n'avait pas le droit de s'écouter puis on n'avait pas le droit de se parler.
On a tous les droits, voyons donc.
Mais tu es un émotif. C'était le fun de t'entendre à la radio. Ouais.
Bon, je pense que j'aime raconter les histoires aussi.
Ouais.
Sais-tu, la radio, là, la difficulté de la radio, c'est que il faut mettre des images dans la tête des gens.
Exact.
Donc, il faut savoir bien s'exprimer pour que les gens voient une image quand tu parles. Alors qu'à la télé, ben, tu leur montres qu'est-ce que ce dont tu leur parles. Puis là, c'est plus facile. Mais à la radio, c'est pas facile. Alors, il faut mettre des images dans la tête des gens. Et bon, je pense que j'ai une certaine facilité avec ça.
Ouais. Puis t'as pas de... Tu sais, des fois, il y en a qui se disent « Ouais, mais de quoi je vais avoir de l'air? » Toi, ça te dérange pas. T'es vraiment terre à terre. Puis tu dis « Garde, moi, là, j'aime pas cette personne-là. Cette personne-là a commis des crimes. Puis je veux l'avoir en entrevue pour y mettre d'en face. » Sérieux, t'étais un fonceur. Puis moi, c'est ce que j'aimais de Martin Evrel du temps où il était dans les médias. 30 ans, 35 ans de médias, presque. C'est incroyable. Tu me dis que t'as commencé à la radio. T'as commencé...
Ouais. Ah, écoute, tu vas tomber en bas de ta chaise. Mon premier employeur, c'était Marc Simoneau.
Hey boy, OK.
À CHRC. Et j'étais journaliste sportif. Alors, j'ai travaillé là pendant un été. C'était un stage.
Mais t'as fait quoi comme étude?
J'étais à l'université, j'ai fait un bac en communication.
Communication.
Et ensuite, j'ai fait un certificat en journalisme.
Okay.
Parce qu'à l'époque, à mon époque, il n'y avait pas de bac en communication, c'était une majeure seulement.
Ouais.
Donc, il fallait faire une majeure puis une mineure en quelque chose. Puis si tu voulais te spécialiser en journalisme, il fallait que tu fasses un certificat en plus. Donc, pour faire le certificat, il fallait que tu aies un bac. Alors, les gens qui arrivaient au certificat, souvent, ils arrivaient du droit. Donc, c'est des gens qui voulaient faire du journalisme judiciaire.
Oui.
Il y a des gens qui arrivaient de la politique. Donc, ils voulaient travailler auprès des journalistes, mais dans la politique. Comprends-tu? Alors, le certificat de journalisme, à l'époque, c'était pas seulement pour devenir journaliste, mais c'était pour travailler dans le monde journalistique. Une fois que tu as un bac en quelque chose, moi, mon bac est en communication, ce que je voulais faire, c'était de la radio. Et j'ai terminé mes études à l'Université Laval. Et mon premier job, c'était à CHRC avec Max Monod. Okay.
Mais tu as su comment qu'il y avait une job de disponible?
C'était un emploi, un emploi qui était pour l'été, qui durait 3 mois. Puis si tu étais bon, ben ils te gardaient. Donc, j'ai fait 3 mois, puis ça avait l'air que j'étais pas bon. Ils m'ont pas gardé. Mais comme journaliste sportif,
ouais.
J'étais mal à l'aise.
Tu avais l'impression d'être un imposteur.
Non, ben, j'aime le sport, mais je suis pas un Joe connaissant du sport.
Ouais.
Il y a toujours quelque chose qui m'a agacé des journalistes sportifs, sans vouloir les abaisser. Tu sais, ils sont très complaisants. Hein? Oh oui, hein? Puis le match, ouais, ça a bien été pour vous autres, hein? Puis les joueurs, ils t'ont donné c'est très complaisant, un journaliste sportif. Et ça m'a toujours agacé. Moi, je suis pas complaisant. Moi, je suis plutôt, tu sais, chialeux, critiqueux, tu sais. Alors,
je dirais honnête, là.
Ben, j'avais pas ce côté un peu guidoune,
ouais,
des journalistes sportifs, sans vouloir les rabaisser, là. C'est correct, là. Mais j'aimais pas vraiment ça, puis ça paraissait en ondes, là. Fait que finalement...
Fait que c'est M. Simoneau qui t'a accordé ta première entrevue,
ouais,
pour un emploi comme journaliste. Il était comment, M. Simoneau, comme boss? Hein?
Tellement fin.
Ouais.
Ça, c'était un bon monsieur.
Parce que moi, j'ose pas... Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. J'y ai jamais parlé en nombre. J'ai eu la chance de le rencontrer en personne. Il était venu à la station de radio où on était à l'époque. Ouais. Puis j'ai jasé avec lui. J'étais pas capable d'imaginer Marc Simoneau en boss. Il est tellement gentil, tellement humain.
Oui.
Des fois, il est un peu mêlé, mais je mettais ça sur le dos de l'or. Bien entendu. Il était comment comme boss?
Ah, il était vraiment fin. Marc, il était patient avec moi. Il m'a défendu. Je pense qu'il voyait que j'étais pas le journaliste sportif typique. Là.
Ouais.
Et puis, finalement, j'ai fini le stage que j'avais à faire.
Qui était là à l'époque?
Écoute, dans ce temps-là, Choix FM était la station sœur de CHRC. Ouais.
Vous étiez sur...
C'était dans c'était au coin Miran et Chemin Sainte-Foy.
Ouais.
Et c'était deux stations qui étaient partenaires.
C'est la station de radio où Benoît Proulx était, François.
Exactement. J'ai travaillé avec Benoît Proulx à l'époque, avec André Arthur, naturellement, qui était là.
Étais-tu sympathique dans les années 80, M. Arthur?
Qui ça? Arthur? Jamais été sympathique.
Puis Benoît Proulx, il était comment? Il était...
Très réservé. Il ne parlait pas beaucoup aux gens. Il faisait sa petite affaire.
Oh. C'est une autre époque.
Ouais. Je le croisais à CHRC les fins de semaine surtout.
Mais si tu me disais, Yann, tu fais un voyage dans le temps radiophonique, là, je retourne au début des années 80.
Ouais, c'est une autre époque, là. Je pense qu'on fait de la radio différemment de ce qu'on faisait à l'époque.
Canadien nordique.
Si on faisait encore ce type de radio-là, je suis pas sûr qu'on aurait tant d'auditeurs que ça.
Je pense que oui. Oh, oui.
Mais c'était différent, tu sais. Et il y avait beaucoup de liens avec les Nordiques à l'époque. La radio, puis CHRC, c'était branché. C'était la diffusion des matchs à CHRC. Alors, c'était important pour nous, à l'époque, les Nordiques.
Mais c'est-tu de là que tu tiens ton côté émotif? Parce que tu avais Marc Simoneau qui était
c'est
là.
C'est ma personnalité.
C'était vraiment... Tu étais fait comme à l'époque.
J'étais même à l'école, à la petite école.
Ah ouais?
Ah oui, j'étais tout le temps le petit anant, là. Tu sais, celui qui aimait ça mettre un peu d'ambiance dans la place.
Fait que tu as fait tes stages... Martin Avril a fait tes stages à CJRP pendant 3 mois.
CJRP, CHRC, c'est-à-dire.
CHRC.
Ensuite, tu parles de CJRP. Je suis passé par là aussi.
Ouais.
Mais avant d'être à CJRP, je suis allé en Beauce. Ça s'appelait 102.1 à l'époque. C'était une station de radio à Sainte-Marie-de-Beauce. J'étais là pendant 6 mois environ. Je faisais le show rock. Et c'est spécial,
ça. DJ?
J'étais là, un DJ, animateur DJ. Puis on mettait du rock métal, là.
Gilles Parent a commencé.
Là. Oui, exactement. Ouais, c'est la station où Gilles Parent a commencé. Et puis, j'ai fait un passage, là, tu sais. Et bon, c'était un apprentissage. Et écoute, il me payait 6$ de l'heure. Et ça, c'est quand même un peu spécial parce que 6$ de l'heure, ça me coûtait plus cher de gaz de me rendre là.
Oui.
Alors, je suis allé quelques fois en vélo, parce que j'étais un grand amateur de vélo à l'époque. Je pédalais tout le temps. Et je partais de chez nous, je restais près de la chute de Montmorency.
Ouais.
Et 3h30 pour me rendre à 102. T'as pas 102, c'était quoi, non? 102, c'est ici. Je me souviens plus l'appellation.
Mais c'est la station de radio.
CJVL, le 138. Hé! Ça vient de popper.
C'est 938?
Là. 138.
138.
C'était un AM.
AM, wow, voilà.
AM 138, CJVL. Okay. Ça s'appelait comme
mais
ça.
Mais là, t'es un peu. Sainte-Marie-de-Beauce, c'est une couple de kilomètres. Si je ne me trompe pas, c'est un genre de 50 kilomètres à peu près.
Oui, c'est du kilométrage.
Toi, je partais
des chutes de Montmorency, puis je pédalais jusqu'à CJVL à Sainte-Marie-de-Beauce. Ça me prenait 3h30, puis 3h30 pour revenir.
Ça, tu parles de ça à des jeunes qui commencent en radio à 20 ans, là, puis ils disent Martin Vrel était fou.
Je faisais ça quand j'allais à l'université. Je faisais ça quand j'ai travaillé à CJRP par après. J'ai travaillé avec CJRP quelques mois seulement. Et ensuite, je me suis en allé dans une agence de publicité.
OK.
Et je faisais du placement média. Ça, c'est la personne qui fait le placement à la télé, à la radio et dans les journaux de publicité. Donc, il y a un client, admettons.
On prend Canam, mettons.
Canam. Puis là, il va annoncer, je ne sais pas moi, à la télé. Bon, mais toi, il fallait que tu choisisses dans où tu vas annoncer, selon le budget que tu avais, puis la station de radio, quelle station de radio, puis quel journaux. Alors, c'était ça que je faisais, c'était plate. Je m'ennuyais. Ça fait que je faisais de la télé en attendant. Du côté de la Rive-Sud, sur le canal communautaire, Canal 9.
OK.
Et avec Alain Tétu. Je ne sais pas si tu as connu ce gars-là.
Non.
Alain Tétu. Un gars assez dynamique.
J'ai connu un Tétu qui chantait, par exemple.
Non, non, c'était pas lui.
Non.
Fait que c'est là que j'ai fait mes premières armes à la télé, à la station communautaire. Et j'aimais vraiment ça. Et là, j'ai eu une passion, une piqûre pour faire parler l'image, raconter une histoire. Et c'est vraiment pris ça là. Il n'y avait pas de pression, tu sais, travailler dans une station communautaire. Et par la suite, ben, j'ai abouti à TVA. Et à TVA, ils m'ont dit, bon...
T'avais quel âge à l'époque?
J'avais 25 ans.
OK, t'étais très jeune.
Ouais, pas si jeune que ça, mais pas si vieux. Et puis ils ont dit, on va t'essayer 2 jours. J'ai travaillé 2 jours à TVA. C'est Marius Brisson qui était le patron à l'époque.
Ouais.
Il dit, on va t'essayer toute la semaine prochaine pour t'évaluer. OK, on travaille toute la semaine prochaine. Puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais manqué une journée. Fait que j'ai fait presque 30 ans, précisément 29 ans et 8 mois à TVA.
Qu'est-ce que tu as aimé le plus fort? Moi, je t'ai vu, écoute, je veux pas te vieillir, mais j'étais un petit peu plus jeune que toi. Je t'ai vu travailler à JE, je me trompe pas, le premier reportage que j'ai vu de toi qui m'a marqué, c'est que tu poursuivais un vendeur de voitures d'occasion qui crossait le monde, puis il t'a fermé la main, il t'a fermé la porte sur ta main.
Exact.
Puis ce jour-là, je tombais en amour avec Martin.
Ça avait fait mal.
T'étais à JE?
Oui.
Qu'est-ce qui te motivait dans ce type de reportage?
Écoute, j'avais une personnalité un peu fougueuse.
Ah oui?
J'étais un gars qui aimait ça, dénoncer les injustices.
Ouais.
Ça, c'était mon target. J'ai toujours été de même un peu. C'était un peu dans ma personnalité. Moi, j'haïs ça, les affaires qui ne sont pas justes. T'sais. J'aime ça quand les choses sont justes. Alors, j'avais déjà, à la télé de Québec, développé un peu ce target-là, de dénoncer des choses... Et d'apprendre aux gens, regardez, il ne faut pas faire ça, vous allez vous faire fourrer. Là.
Ouais.
Alors déjà, j'étais dans le moule, et puis les gens de Montréal, ils m'ont comme regardé aller, puis ils ont dit, hey, lui, l'émission commençait, là. Ça faisait 3 semaines c'était en onde, je n'étais pas là, là. Ils ont dit, ça nous prend un joueur de plus, puis Evrel à Québec, je pense qu'il ferait un job.
Mais,
j'ai été comme recruté
ouais.
par TVA Montréal pour faire les débuts de JE. Et c'est là que j'ai commencé à JE. Donc, c'était mes premiers reportages, là, ça a été à Montréal où je travaillais.
Mais courir les méchants comme ça, les boss, tes boss devaient faire des cauchemars. Des fois, les avocats, ça devait cogner. Puis bonjour, on a quelque chose, on a une lettre à donner à M. Evrel.
Écoute, m'a dit quelque chose que j'ai jamais dit. OK? Il y a des bouts qui n'ont jamais passé à la télé. Parce que je suis un peu baveux. OK?
Ah ouais.
Puis tu sais, si tu me baves, je ne vais pas me laisser faire. T'sais. Si tu me frappes, tu dis, écoute, on va me défendre. Là, hein?
Ouais.
Fait que. Il y a des bouts qui n'ont pas passé. Puis des fois, tu sais, ça brassait pas mal. Je me souviens d'un gars, je ne le nommerai pas, mais j'étais sur son cas. J'étais sur son cas depuis plusieurs semaines. Puis il me sentait. Il me voyait pas, mais il sentait que j'étais autour, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais abouti, bang! Hey! Martin Evrel, J.E., tu sais, puis là, bang, 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 les questions, tu sais. Et puis, c'était une crosse concernant des publicités à la radio, en plus. Alors, le gars se revire de bord, puis il me swing un coup de poing sur la gueule. On n'a jamais vu ça en onde.
Toi, tu voulais que ça passe.
Et... puis là, ben, écoute, je disais, hey, il m'avait frappé, vous, là, tu sais. Oui, je me relève, tu sais, puis je continue de lui poser des questions, puis de le harceler, tu sais, puis là, il part dans son véhicule, on part dans notre véhicule, puis on se met à le poursuivre, puis en tout cas, une affaire de fou.
Les caméramans devaient halluciner d'être avec toi, là.
Non, bien, il y en a qui aimaient ça, parce qu'ils disaient, hey, Evrel, il est fou dans la tête, on va avoir du fun avec lui. Il y en a qui disaient, ah, si, Paul, qu'est-ce qu'il va nous faire faire encore? Parce que moi, c'était tout le temps, filme ça, tu sais. Puis c'était le début des caméras cachées, en plus, ouais. Fait que des fois, c'est le caméraman qu'il fallait qu'il porte la caméra cachée. Là, au début, c'était caché dans un sac, une espèce de sac fourre-tout, là, puis on cachait une caméra là-dedans. Et puis, à la fin, c'était une fibre optique. Là. C'était vraiment hot. Là. C'était un bouton de manchette, là, un bouton sur ton uniforme, puis un petit trou. Là, les quatre trous d'un bouton, ben, dans un des trous, c'était une fibre optique, puis pouf!
Wow.
Ça shootait. Là, c'était écœurant. Fait qu'on était quand même bien équipé pour faire des affaires.
Fait que le gars te frappe après ça.
Le gars, finir l'histoire, le gars me frappe, puis là, j'appelle l'avocate, parce qu'on avait une avocate qui s'occupait de nos affaires. Je dis, hey, le gars, il m'a frappé, je pense faire une plainte pour voie de fait. Elle dit, ouais, mais là, c'est pas correct qu'il t'ait frappé, effectivement. Écoute, envoie-moi le tape.
Ouais.
Fait que j'envoie le tape. L'avocate, elle me rappelle, elle dit, Martin. Elle dit, j'ai écouté toute la bande vidéo. Elle dit, moi aussi, je t'aurais donné mon poing sur la gueule. Elle dit, c'est sûr que si jamais on visionne la bande au complet, on va s'apercevoir que tu le méritais, ton poing sur la gueule. Puis même que tu as fait plein d'affaires là-dedans là, qui étaient vraiment too much. Tu étais intense en tabarouette. Fait que je dis, ouais. Fait que je ferai pas de plainte. Elle dit, non, on fait pas de plainte. Fait que ça n'a jamais passé. Fait qu'il y a des affaires comme ça qui n'ont pas passé. Je me suis dit, un gars qui me brossait, puis il me brossait. À un moment donné, je l'ai pogné, bang! Je l'ai rentré dans le mur, je lui ai dit, hey, tu vas me lâcher, mon tabarnak! Tu sais, puis avec le sac, là.
Ouais.
Là, c'est le caméraman qui me dit, Martin, lâche-le! C'est le caméraman qui me dit, lâche-le, lâche-le. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, là, tu sais, de te faire brasser, là, il y a des limites. Fait que ça, ça n'a pas passé non plus.
Ouais.
Il y a bien d'autres affaires qui n'ont pas passé.
À un moment donné, la CNSST, tout ça, appelé personnellement, la CNSST, dit, M. Martin, c'est parce que là, vous payez des cotisations, vous allez nous coûter plus cher qu'est-ce que vous nous rapportez.
Mais c'était rock and roll, hein, tu sais, puis c'était notre marque de commerce. Puis pour faire ces affaires-là, j'étais baveux. J'aimais ça, tu sais, on dirait que je carburais à ça. Et puis, avec le temps, ben ça a changé. Parce que là, il y avait des poursuites, puis là, les gens, ils se défendaient, puis là, ben, finalement, ben, l'ensemble des poursuites a fait en sorte que là, le TVA a dit, on va se calmer.
Il est un peu plus frileux.
On va se calmer, là, parce que là, on a pour 50 millions de poursuites, là.
Sauf que JE fonctionne encore aujourd'hui grâce à des précurseurs comme vous autres qui avaient fait parler puis qui avaient fait ce type de job-là.
Ouais.
Vous avez attiré énormément d'attention en faisant cette job-là, c'est-à-dire de montrer qu'il y avait des crosseurs dans la vie, qu'on était capable de leur parler, de leur confronter. Parce qu'aujourd'hui, les crosseurs en 2025, là, bon, ils vont passer en procès, ils vont avoir leur sentence, puis on entend n'aura pas parlé.
Ouais.
Tandis que dans votre temps, vous en laissiez pas un passer.
C'est le fun de dénoncer ça. Les gens qui sont malhonnêtes, tu sais, puis qui trompent les personnes, ils n'ont rien. Ils se font avoir bien raide. Ils perdent toutes leurs économies pour X raisons, pour avoir embarqué dans une combine tout croche, là, de vente de meubles à un moment donné qui était pyramidal. Tu sais, c'était pas le fun. T'sais, moi, ce que j'aimais de cette émission-là, c'est qu'on apprenait des choses aux gens. On leur apprenait à se défendre, puis à se dire, « Hey, savez-vous, dans telle situation, là, ça peut vous arriver. » Puis, tu sais, regardez ce que là, on l'a mis hors circuit. Tu sais, puis on recevait quasiment des félicitations pour dire, « Hey, merci, là, tu sais. » Quel crosseur, ouais. Tu sais.
En fait, tu faisais la job d'un journaliste. Le métier de journalisme, c'est d'être c'est le quatrième pouvoir, en fait.
Oui, en quelque sorte.
Tu sais, c'est à un moment donné...
On avait un pouvoir, ça, c'est le cas de le dire.
Exact. Puis je pense qu'il est encore là, le pouvoir, mais avec les contentieux, les avocats,
ça a
tout ça.
Ça a changé.
Tu sais, même les crosseurs peuvent se défendre et retirer de l'argent.
Mais tu sais, Yannick, c'est notre responsabilité comme journaliste aussi de faire ça. C'est quoi la job d'un journaliste? C'est d'enseigner aux gens quelque chose, OK? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans l'actualité, tu vas écouter le bulletin de nouvelles, puis le journaliste, s'il fait bien sa job, il va t'apprendre de quoi.
Ouais.
S'il t'apprend rien, là, pas bien, là, OK? Fait que la job d'un journaliste, c'est ça. C'est d'apprendre des choses aux gens pour qu'ils puissent continuer à vaquer leurs occupations, tu sais, puis à évoluer, tu sais, dans la société. Alors, je pense qu'on avait une utilité qui était vraiment bonne à l'époque et qui l'est encore, mais l'émission a changé naturellement. Il y a eu la facture qui est venue par la suite, qui fait un excellent travail, parce que c'était des enquêtes. Hein. On fouillait, là. On était proposant. On grattait, là.
Ouais.
Ça m'est arrivé, puis j'ai suivi un cours de détective privé à un moment donné pour raffiner un peu mes méthodes d'enquête. Et j'ai adoré ce cours-là. Une des choses que j'ai apprises, c'était de fouiller dans les poubelles.
Ben oui.
Je l'ai fait.
Il n'y a personne qui se
met. Fouiller dans
ça.
Les poubelles d'une entreprise, je l'ai fait. Tu sais, puis il y a du stock là-dedans. Il y a des informations là-dedans.
C'est à cause de toi, c'est-à-dire que les entreprises ont besoin de déchiqueteuses.
Oui, oui. Mais tu sais, à l'époque, les patrons nous donnaient le temps de faire ça. Nous donnaient le temps de faire nos enquêtes, nos recherches, puis de faire suivre des gens.
Ouais.
Tu sais, hey, écoute, c'était quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'on a moins le temps de permettre aux journalistes de faire ça.
Oui, puis c'est plus de surface, tandis qu'avant, vous étiez plus en profondeur. Mais tu sais, j'expliquais à mes élèves, il y a de ça quelques années, j'étais au Collège Radio-Télévision de Québec, je leur disais, la job d'un journaliste, c'est d'accompagner des gens non-voyants, rentrer dans une pièce, ouvrir la lumière, puis faire voir aux gens non-voyants qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce, puis après ça, quitter.
C'est
tout simplement.
Belle façon.
Ben, aujourd'hui, on reste en surface avec les 5 W qui sont toujours là, mais on n'a pas l'impression qu'on apprend tout le temps des choses. Puis souvent, c'est des nouvelles qui
t'es
sont
t'es sûr que les 5 W sont tout le temps là? Pas sûr, moi!
T'es peut-être plus attentif que moi, mais tu sais, quand j'écoute mon bulletin de nouvelles, ils sont beaucoup plus en surface qu'avant quand vous y alliez en profondeur. Puis on s'est tout le temps bien distingué à Québec, autant à TVA Québec qu'à TQS Québec quand ça a commencé. Mm-hmm. On faisait du journalisme qui n'était pas nécessairement comme les autres. Tu sais, TQS a montré très rapidement parce que justement, ils ont dit « Hey, on va faire différent de ce que TVA fait. » Puis sur le terrain, vous étiez très frondeur comme journaliste, puis ça avait beaucoup, beaucoup d'impact, ce qui fait en sorte que les gens de Québec étaient très attentifs à leur bulletin de Québec.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, c'est le bulletin de Québec, le bulletin de Montréal, ils se ressemblent.
Ouais.
Souvent, c'est des reportages qui sont autant à 17h qu'à 18h, puis tu disais « Je suis à Montréal, je suis à Québec, je ne sais plus. »
Les façons de faire ont changé et les budgets aussi, je te dirais, parce qu'il y avait d'importants budgets qui étaient mis là-dessus, là, parce qu'on passait du temps là, à faire nos petites enquêtes puis nos recherches puis tout ça. À un moment donné, ben la baisse des revenus publicitaires a fait en sorte que, bon, il y avait moins d'argent pour faire des grosses enquêtes. Donc, ça a changé à cause de ça, entre autres. Et puis, ça continue de changer. Regarde les bulletins de nouvelles maintenant. Il n'y a même plus de bulletins de nouvelles régionales à TVA. Il y a un bulletin qui se fait de Québec pour les régions.
Ouais.
Alors, c'est beaucoup de changements, ça. Parce que là, c'est plus la télévision de la région qu'on entend, c'est les nouvelles régionales d'un peu partout. Alors, ça, c'est une question de budget.
Ouais, ben mais il y a une question aussi, puis là, je critique mon propre médium, là, tu sais, je critique ma profession aussi, c'est que si on ramenait les anciens journalistes, on les payait de façon équitable, puis qu'on leur disait « allez-y, foncez », on aurait pas mal plus d'intérêt à regarder la télé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression, puis tu sais, moi, j'ai reçu un communiqué là, dans, dans ma boîte de courriel. J'ai l'impression que le journaliste ne s'est jamais rendu sur place. Il est en piquette devant une bâtisse, puis finalement, il me raconte ce que le communiqué de presse racontait.
Oui.
J'apprends absolument rien, tandis que les anciens journalistes font
on fouillait! Ben, on fouillait tellement. Hey, les demandes d'accès à l'information, là, parlons-en. Écoute, j'étais un de ceux qui en faisaient beaucoup. OK? Il y a un autre journaliste bien connu qui était spécialiste des demandes d'accès à l'information que tu as connu dans ton ancienne vie, là, pour ne pas le nommer, Dominique Moret. Lui, il faisait peut-être 30 demandes d'accès à l'information par mois. Tu sais, puis il se dit, à un moment donné, il y en a une qui va popper. Mais c'était ça.
Ouais.
Mais ça popait. Maintenant, ça pop plus. Tu reçois des documents qui sont clavardiers, puis tu n'as rien. Puis ça leur prend une éternité avant de te donner les informations. Puis quand tu as l'information, ben c'est plus au goût du jour. Ouais. Là,
les choses ont changé. C'est rendu genre de je punch in, je punch out. Je parlais avec le fils de M. Teasdale, je me trompe pas, Olivier. C'est l'année passée que j'ai rencontré il y a ça quelques jours aussi. Il était dans nos studios. Il parlait de son père.
Bon Jack!
Vous avez travaillé. Vous avez fait du 7 jours sur 7. Vous n'aviez pas d'heure de travail. Vous travaillez le soir, la nuit, le jour. Vous faisiez ce métier-là pour les bonnes raisons. Hey. Aujourd'hui, on a énormément de journalistes qui disent « Moi, ma job, c'est du 8 à 5, puis ça va rester du 8 à 5. » On n'a plus de cette tranche de journalistes qui, eux autres, ils étaient attitrés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour le média pour lequel ils travaillaient.
Hey, Jacques Disney, c'est une bébite, ça.
Il dormait dans son char.
Je me souviens, oui. Puis c'est vrai. Oui. Je me souviens, j'ai remplacé une fois un été, alors qu'il était au fait d'hiver. Et puis lui, il était équipé en scanner pour scanner la police, les ambulances et puis les pompiers. Fait que, il était tout branché sur toutes les fréquences de ces policiers, pompiers et ambulanciers. Et puis... À un moment donné, quand j'ai eu à le remplacer, il me passe ses scanners puis tout ça. Puis son véhicule de TVA, t'as plein de scanners. Là. C'était plein.
Ouais.
Puis là, ça parlait puis ça jasait continuellement. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais la nuit? Il dit, je laisse le scanner ouvert aux principales fréquences. Puis à un moment donné, quand il se passe un événement, le monde a tendance à crier plus fort.
Plus fort, ouais.
Puis il y a comme une intensité. Puis ça me réveille. Puis c'est là que je m'en vais sur place pour finalement un meurtre, un incendie ou quoi que ce soit. Fait que j'ai vraiment fait ça. Quand je l'ai remplacé, j'ai dormi avec le scanner ouvert. Puis je dormais. Puis à un moment donné, ça parlait plus fort, ça me réveillait. Puis il y a un incendie à telle place. Je partais, puis je m'en allais sur place en pleine nuit. Ouais. Fait que c'était fou, là!
Il y avait le gardien de nuit, Jeff Labrie,
qui
faisait la même affaire.
Oui,
hypothéquait sa santé, mais Jeff, c'était un passionné aussi. Ouais. Là.
Et là, il y a moins de ces choses-là, parce que les fréquences sont toutes brouillées, ou presque. Il y en reste encore quelques fréquences qui sont disponibles, mais les principales fréquences ne sont plus accessibles avec la numérisation des fréquences.
Martin Vrel, j'ai le goût de rentrer dans ta vie personnelle. On te voyait à face à tous les jours. Ça t'a-tu nuit, ça?
Non.
Dans ta vie personnelle?
Non, pas vraiment. Non.
Ça a aidé pour les blondes, là. Mais il y a
tout le pas vraiment.
Non.
Je te dirais que ma blonde actuelle,
elle
me dit, en partant, quand on s'est rencontrés, elle me dit, « Ouais, je te dis d'avance, pas parce que t'es journaliste, là, ça m'impressionne pas pantoute. »
Ouais, c'est ça. Mais elle est plus belle que toi, fait que, elle t'a peut-être attiré par la personne que tu étais.
Ouais, par la personne, la personnalité, ça va, mais pas par le fait que j'étais journaliste, OK?
Non, mais je veux dire, est-ce que dans ta vie personnelle, quand t'allais à l'épicerie, là, les gens qui, je sais pas, mais que t'avais déjà rencontrés dans des anciens reportages, t'as-tu déjà été menacé?
Ça m'est pas arrivé souvent,
non.
Mais ça m'est déjà arrivé. Et puis, il y a un gars qui, à un moment donné, j'étais dans un Super C. Le Super C sur Champfleury. C'est pas passé un événement, là, récemment? Oui, c'est passé un événement. En tout cas, j'étais sur dans le Super C et puis je magasinais 3-4 bébelles. Je faisais juste passer par là. C'est pas un supermarché où je vais habituellement. Et il y a un gars qui m'apostrophe et il dit « Hey, Yvrel, c'est à cause de toi si j'ai fait de la prison? » Je dis « Ah, ouais. Ah, ben, désolé. » Il dit, « Ton reportage, là, il est déneigeur. » Lui, c'était un gars qui était déneigeur, puis il avait ramassé le cash, mais il n'avait pas déneigé. Alors, je l'avais pincé, puis je l'avais étampé plein écran. Et il n'avait pas aimé ça. OK? Puis effectivement, ben, il a été emprisonné par la suite parce qu'il y avait un cas de fraude. Là. Ouais. C'était de la fraude. Puis il y avait d'autres dossiers aussi. Là. C'était pas un reposant.
Mais pour lui, tu étais l'image qui a fait en sorte qu'il a rentré en taule.
Oui. Je disais au gars, je lui disais, hey, tu sais, pas à cause de moi que tu es en prison, hein? C'est à cause de ton comportement. Fait que fous-moi la paix. Fait que le gars m'a laissé tranquille. Mais, tu sais, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Mais c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent.
Tu te faisais jamais. Tu fais partie d'une génération où d'un bar, ça brassait. Tu te faisais jamais achaler d'un bar?
Non, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. C'est plus des gens sympathiques. Hey, salut Martin! Puis eux autres, ils te voyaient comme un ami. Là, ouais. Ils te voyaient à TV. T'es son ami.
Ouais, ou comme le bonhomme carnaval. Hey, Martin Brel!
Ça fait que c'est plus sympathique que des gens qui m'agressent. Là. Ça, c'est pas arrivé souvent.
Ah, c'est le fun, ça. Puis, est-ce que quand tu étais pour JE, est-ce que Cazin était là? Jocelyn était là?
Oui.
Puis son partenaire qui était là aussi.
Ben oui, Gaétan. Gaétan.
Tu l'as-tu bien connu aussi?
Très bien.
Oui.
Ouais, très bien. Bien, c'est sûr, Gaétan, on a travaillé ensemble beaucoup. Gaétan.
Parce que lui, on parlait de poursuite tantôt, ça a l'air d'avoir hypothéqué un peu sa vie.
Oui, c'est sûr que. Il y en a pour qui c'était plus dérangeant que d'autres. Ça dépend quel genre de personnalité que tu as, là. Lui était, disons, très sensible à ça. Là. Ouais. Puis son image, c'est très important, l'image qu'il donnait. Puis que là, s'il était poursuivi, ça veut dire qu'il avait fait quelque chose de mal. Tu sais, non, Gaétan. Puis souvent, je le rassurais.
Ah oui?
Ah oui, la veille de son décès, de son suicide, il vient me voir et il dit hey, Martin, avec sa grosse voix, ouais. Il dit la convention collective, là, ça nous protège-tu
c'est des poursuites.
Pour les poursuites, si jamais je vais en prison. Je dis ben voyons, Gaétan. Tu n'iras pas en prison, premièrement, là, oublie ça. Et puis, deuxièmement, tu sais, oui, tu es protégé, tu sais, il y a une clause. Moi, je prends la peine d'expliquer la clause, la convention collective qui fait en sorte que le journaliste qui travaille pour un média d'information, bon, c'est le média d'information qui assure sa défense, en autant que ce ne soit pas quelque chose de criminel.
Oui, c'est ça. C'était comme ça dans le temps. C'était une couverture à 100%. Puis je te dirais qu'il y a des individus qui sont arrivés à la radio, un certain Arthur, puis un autre Filion qui ont changé les pourcentages.
Ouais.
Fait que tu sais, comme moi, j'avais, quand je suis arrivé à la radio à Québec, c'était en 2011, ben j'étais protégé à 90%, mais je devais payer 10%. Ah. Fait que si j'étais poursuivi pour 100 000, ben je devais donner 10 000 si jamais j'étais déclaré coupable.
Oui, ça, c'était la force d'avoir une convention collective, ouais. d'être syndiqué.
C'est ça.
C'est que tu étais protégé à 100%.
Puis il y a d'autres animateurs qui étaient embauchés. Qui, eux autres, étaient aucunement couverts.
Oups-là, hein?
Ben, c'est ça. C'était,
puis la couverture a changé avec les années, hein?
Oui, oui,
ouais, c'est ça.
C'est ça. Mais ça brassait. Puis M. Giroir, tu sais, quelle triste fin. Mais c'est ça, il semblait avoir beaucoup de difficultés avec les possibilités de poursuite.
Ouais, c'est un ensemble de choses là, qui ont mené à son suicide. C'est
ça tes chums ou c'était
plus qu'un collègue? Oui, c'était un bon ami. C'était plus qu'un collègue. On se voyait en dehors du travail. Et puis
parce que moi j'ai quelqu'un que j'aime bien qui t'a connu à l'école, qui était mon collaborateur pendant des années, puis je veux dire, il est très intellectuel comme individu, puis il me dit eh oui, moi Martin Virel, c'est un de mes bons chums.
De qui tu parles?
Max Power, on va dire ça.
Ah, OK. Là, je sais de qui tu parles.
T'es chum avec Evrel.
On étudie ensemble.
Mais jamais j'aurais pensé que vous pourriez être des chums, vous deux. Lui, il est très, très, très intellectuel, toujours bien habillé et tout ça. C'est Martin Evrel qui est très déjanté. Fait de savoir que
mais il travaille dans un milieu qui avait un lien avec mon travail journalistique.
Exact. Fait que de savoir que tu avais un chum en Gaétan Giroir, on dirait que ça ne me surprend plus maintenant.
Non.
Tu es capable d'être chum avec tout le monde.
Bien, c'est un chic type, hein, premièrement.
Ouais.
Et puis, je te dirais que lui était vraiment l'idole de bien des gens. Moi, je le regardais avec beaucoup de, disons, de... Il y avait tout. Il avait tout pour réussir, tu sais. Donc, je l'enviais beaucoup.
Il était plus vieux que toi à l'époque?
Non, il était plus jeune.
Plus jeune.
Il était plus jeune que moi. Et il est décédé à 33 ans. J'en avais peut-être 40 dans ce coin-là. Alors, c'était un chic type. Vraiment sympathique. Et très proche des gens. OK, très proche. Et il y avait ce souci que moi, j'avais aussi de justice. Et pour ça, que quand il est décédé, je l'ai appelé le justicier de TVA, là, parce que c'était tellement un gars qui défendait les pauvres personnes. Alors, c'est important pour lui de défendre ces gens-là. Puis, on avait le même pattern, là, parce que moi aussi, j'étais comme ça. Alors, c'est sûr que c'était une grosse perte. C'est malheureux. Là.
Puis, okay. Toute la gang à TVA, à ce moment-là, ça devait pas être facile de repartir la machine après qu'un collègue quitte de cette façon-là.
Oui, mais moi, j'ai terminé la saison, puis c'était fini après.
Oui.
Ouais. J'ai dit, sans Gaétan, c'est pas pareil. Je le sens plus, puis après 6 ans, j'ai quitté là, parce que j'avais plus mon chum avec moi.
Ouais. Tu faisais beaucoup de faits divers. T'as-tu fait d'autres choses? As-tu déjà suivi la scène politique?
C'est un milieu que j'ai jamais bien fréquenté, la politique. Mais après JE, ce que j'ai fait beaucoup de journalisme d'enquête et je faisais beaucoup de protection du consommateur. Ça, j'adorais ça.
Ouais.
C'est, oui, j'adorais dire aux gens, « Hey, voyez cet appareil-là, achetez pas ça, c'est une guenille. » Mais ça, j'adorais faire ce genre de journalisme-là. Et on avait parti à l'époque ce qui s'appelait l'œil d'Evrel. L'œil d'Evrel, ça a duré quand même plusieurs années, cette affaire-là. Ouais. Fait que les gens m'appelaient pour dénoncer des situations injustes. Et là, j'allais voir sur place. Puis là, je faisais des reportages sur des choses que les gens dénonçaient. Et ça faisait des bons reportages parce que ça touche les gens. Les gens étaient directement liés au sujet. T'sais. Ils s'étaient fait avoir par un tel ou ils voulaient dénoncer une situation qui n'avait pas de bon sens. Je me souviens d'une situation, le gars, il dit, dans ma ville, il dit, les poteaux d'hydro, ils sont dans la rue. J'ai dit, hey, tu me niaises? Oui, viens voir. Puis j'arrive, les poteaux étaient dans la rue. Ouais. Je dis, voyons, comment ça que les poteaux sont dans la rue? T'sais? C'était toutes des situations comme ça qui n'avaient pas de bon sens. T'sais. Soit des injustices, soit des aberrances. Et j'adorais faire ça. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années, puis à un moment donné, mon mandat, c'était la justice. Alors ça, c'était mes 10 dernières années au palais de justice, à dénoncer un peu tout ce qui s'appelait les truands de notre belle société.
Moi, j'ai des contacts un peu là, chez les avocats, j'ai un juge comme contact aussi, puis on m'a déjà rapporté qu'il y avait des règlements qui ont été mis en place à cause d'Evrel au palais de justice.
Oh.
C'est vrai ça ou c'est une rumeur?
Ouais. Écoute, c'est sûr que dans le palais de justice, avant qu'on ait les petits endroits réservés pour les caméras...
Attends un peu, c'est quelque chose. Le gars qui défendait tout le temps tout le monde arrive au palais de justice, puis la justice dit, il défend le monde, mais parfois, il défend peut-être trop le monde, fait qu'on va y mettre un petit carré. Là. On va dire, ça, c'est l'enclos à Evrel.
Ça ramène à Robert Gillet. Alors, Robert Gillet, lorsqu'il était au palais de justice, tout le monde courait après lui.
Enquête Scorpion.
Exactement. Tout le monde courait après lui. C'était une vedette de la radio, tu sais. Puis bon, Robert Gillet. Fait que quand il se pointait dans le palais, on courait après, puis on l'achalait avec nos questions. Mais on le suivait, puis moi, j'étais assez intense, là, partout. Puis je ne lâchais pas. Puis à un moment donné, on est descendu jusqu'à un casier des avocats de la défense. Puis on continue de l'harceler, puis poser de questions.
T'as croisé un éminent avocat.
Et cet éminent avocat-là a fait une plainte pour dire, « Hey, là, ça va faire. Écoute, les journalistes sont rendus qui nous courent après nous autres d'un casier au sous-sol du palais de justice. Ouais. Là, il faut établir des règles. » Alors, cet avocat-là a fait une plainte là-dessus. Et d'autres avocats se sont joints à lui. Et puis, c'en est venu qu'on a finalement... installer des endroits précis où les journalistes devaient se tenir et les caméramans pour prendre des images puis faire des entrevues.
C'est sûr que
vous. Alors, c'est pas à cause de moi tout seul, mais c'est à cause de toute la folie qui avait entouré cette cause-là de Robert Gillet dans l'opération Scorpion. Alors, c'est moi, j'étais un de ceux qui étaient un peu intenses. Et puis, il y en avait d'autres. Là, mais
moi, je te trouve formidable.
J'étais un peu fatiguant.
De voir que ce juge-là s'est peut-être fait croiser alors qu'il était en bobette, j'ai l'image puis je suis bien content.
C'est sûr qu'il y a des caméras qui se sont faites frapper par des gens et des micros qui se sont fait frapper aussi. On s'est fait bousculer. Là.
Pourquoi tu jugeais important, justement? Parce que parfois, c'était à l'extérieur du palais de justice. Parfois, c'était à l'intérieur parce que des fois, les individus, ils rentrent par d'autres portes et tout ça. Pourquoi tu jugeais important de leur montrer le visage à ces salopards-là, ben, ceux qui avaient agressé des enfants, ceux qui avaient fourré du monde?
Mais c'était basic, là, Yannick. C'est simple. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il ne va pas se mettre à s'enfuir, puis il va s'installer devant ta caméra, puis il va répondre à tes questions. Mais quelqu'un qui s'enfuit puis qui t'agresse, ben déjà, il est un peu plus coupable que quelqu'un qui est là puis qui répond à tes questions puis ouais. Il n'a pas l'air d'être coupable de rien, tu sais. Alors souvent, les gens, ben c'est ça, ils n'étaient pas contents de passer à la télé, tu sais.
Jacques donc... Delisle qui met son œil dans ta caméra. Drôle, hein?
Ouais, ça, c'était intense parce que, tu sais, on avait nos petits casiers, là, où est-ce qu'il fallait qu'on était restreint.
Ouais.
Et puis, ça faisait pas des images à tout casser, puis on pouvait pas le confronter non plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai attendu. Il est allé dîner avec sa famille, l'autre bord, je sais pas si c'était au Charbon ou un autre restaurant dans ce coin-là. Là. Puis, en revenant, j'ai dit, je vais te le pogner, toi, juste avant qu'il rentre au palais de justice. Fait qu'il arrive, puis... il voit la caméra dans sa face. Puis au lieu de dévisager la caméra puis de s'en aller comme si de rien n'était, il se plante la face dans la caméra.
Il va mettre son œil dans l'objectif.
Il dit, « Faites pas votre job! » Je dis, « Ben oui, monsieur Delisle, on fait notre job, là. On fait juste ça, faire notre job. On rapporte ce qui se dit dans le palais de justice. Non! Il dit, « Faites pas votre job! Faites pas votre job! » Puis là, il s'en va. Et puis après ça, son fils m'apostrophe puis il commence à me dire... il me fait des insultes. Puis il me dit ouais, vous savez, M. Evrel, un jour, le malheur frappe à toutes les portes, hein, puis un jour, il frappera à votre porte, puis j'espère qu'il va frapper très fort. Ah oui, je dis, vous souhaitez du malheur. Puis il me dit ça à la caméra, tu sais. Moi, première chose que j'ai, le réflexe que j'ai, c'est bon, on pointe ça, puis on me sent en honte.
Oui.
Fait que, tu sais, je veux dire, il avait juste à passer devant la caméra, puis pas s'occuper de moi. Ouais. Mais tu sais, j'étais fatiguant, là.
Mais c'est des
Il n'y a pas
rien
d'air.
C'est des images qu'on va revoir dans 20 ans.
On a-tu vu ça, toi, cette image-là du juge Delisle? La face collée sa caméra, là, tu sais. Puis même le caméraman est allé, il dit, coudon, il va-tu rentrer dans la caméra, tu sais? Il peut pas être plus proche que ça.
Ouais. Il y a eu plein de choses qui me reviennent à la mémoire. Ce matin, je savais que tu allais venir. Fait que j'étais bien content. Je me suis dit, faut que je me rappelle de trucs à jaser avec Martin Evrel. À un moment donné, parce que toi, tu étais attitré au Palais de justice de Québec, puis il y avait les autres réseaux qui étaient là. Puis j'imagine qu'il y avait une belle camaraderie qui s'installait avec les autres réseaux. Puis il y a un individu qui s'en était pris à toi. Et il y a...
Oui, tu parles du massothérapeute, là.
Oui, puis Yannick qui était...
Bergeron.
Yannick Bergeron qui était...
de Radio-Canada.
D'un calme exemplaire a tenté de t'aider et c'était... cette scène-là était de toute beauté.
Tellement drôle, là. Parce que nous, à TVA, on callait un caméraman quand c'était le temps de filmer.
Ouais.
Mais s'il n'arrivait pas à temps, moi, j'avais ma petite caméra. Puis je filmais avec ma petite caméra en attendant que mon caméraman arrive. Fait que des fois, malheureusement, le caméraman n'était pas arrivé à temps pour prendre une image d'un tel qui sortait de la salle de cours. Mais ouais. Au moins, j'avais ma petite caméra qui avait filmé l'image puis que des fois, on avait des cotes audio avec ça. Fait que ça dépannait. Tu sais, c'était ma caméra pour dépanner. Fait que j'étais en train de filmer ce gars-là, puis il a décidé de s'en prendre à moi. Il me garoche sa bouteille d'eau, et puis on voit la bouteille passer juste à côté de moi. Puis après ça, il s'en prend à la caméra, à moi, tu sais. Puis Yannick Bergeron, on le voit essayer de le retenir. « Monsieur, monsieur, calmez-vous, tu sais. » Puis là, c'est lui qui était poigné avec lui, à se batailler avec lui. Puis à un moment donné, le gars poigne son cellulaire.
Mais toi, tu filmais, là.
Moi, je filmais, puis lui, il filmait aussi. Lui aussi, oui. Yannick Bergeron de Radio-Canada, il filmait aussi avec son cellulaire.
Vous étiez au troisième étage.
On était au troisième ou au quatrième. Je pense que c'était au quatrième.
Ouais.
Et oui, on était au quatrième. Et puis, il poigne le téléphone cellulaire à Yannick, puis il garoche en bas. Mais le palais de justice, c'est un atrium, hein? C'est une grande toiture.
C'est ça.
Ben, tout est ouvert. Fait qu'il garoche le téléphone cellulaire en bas des quatre étages, bang, au rez-de-chaussée. Fait que... Moi, je capotais. J'ai dit, ben voyons donc, il a pogné les plombs. Lui, c'est un massothérapeute qui avait agressé sexuellement ses clientes.
Ouais.
C'était quand même assez grave, là, tu sais. Et puis, bon, on le montrait, tu sais. On voulait montrer au public c'était qui le gars, là, tu sais. C'était important, là. Je ne me souviens plus de son nom. Adjatam,
ouais,
je pense. Adjatam.
C'était une autre nationalité, je m'en souviens bien. Et puis, raconte-moi ce qui s'est passé avec le cellulaire de Yannick.
Ben, c'est ça qui est drôle. C'est que le cellulaire a tombé 4 étages plus bas. Mais là, nous autres, on s'est dit, il est fini. Le cellulaire est tombé sur le plancher de marbre au palais de justice. Non, il est tombé d'une boîte à fleurs. Il était intact. Puis on voyait sur les images, quand on a regardé avec Yannick, les images, on voit le cellulaire, les images que le cellulaire a pris en descendant les 4 étages, puis pouf, aboutir dans la plante verte. Fait que c'était très drôle.
Fait qu'il est atterri là, puis il n'a pas été brisé.
Pas brisé du tout. Puis Yannick a utilisé une partie de son tournage qu'il avait fait. Alors lui avait des images de moi en train de me faire agresser, puis moi, j'avais des images de lui en train de se faire... De se battre avec Adjatam puis de se faire enlever son cellulaire.
Hey, moi, je me souviens.
Fait que c'était drôle parce qu'on avait tous les deux des images un peu spectaculaires.
Je me souviens de ces images-là parce que dans le studio où j'étais, on avait plein de téléviseurs. Puis on a vu les images de Radio-Canada, les images de TVA, puis on braillait.
Ah ouais, c'était drôle. Ben, c'est pas drôle. Parce que tu te fais agresser, c'est pas le fun. Là. Mais je me fais agresser quelques fois quand même au palais de justice. En plein palais de justice, ouais. Là. Tu sais, puis là, à un moment donné, avec le temps, les constables spéciaux, ils disent « Ah, Évrel est dans le coin, on va se tenir pas loin, ça va brosser. » Il y en a un qui va y sauter d'en face encore.
Fait que tu te mettais chum avec.
Je vais pas être chum avec. Les autres, ils sont là pour protéger. Hein. Mm. Ils me protégeaient tout le monde, moi y compris. Fait que quand ils me voyaient, ils disaient « Bon, Évrel va peut-être se faire agresser, là. » Le gars, il a l'air un peu agressif, fait que... On va rester stand-by pas loin.
Ah, c'était les belles années que tu nous as fait vivre tes émotions, mon ami. T'as pas idée. Je rappelle aux gens qu'on a eu le plaisir de parler avec Martin Évrel ce soir, un invité spécial. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir, mais comme il y a un horaire de président des États-Unis, ben, ça a pris 2 ans avec qu'il se pointe dans nos studios. Je me considère comme très privilégié de te recevoir.
T'es fin.
Je pense que ça se ressent. Là. On a une belle relation. Pour les auditeurs, ben, on va faire une courte pause puis on revient tout de suite après.
Marceau, le soir. Rage against le matin.
Farnell Morissette est avec nous. Farnell, comment ça va?
Ça va très bien, toujours content d'être ici.
Ben, je pense que l'alarmisme qu'on voit surtout dans les manchettes puis fait un très mauvais service à essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a des choses inquiétantes qui se passent aux États-Unis et je trouve ça un peu irresponsable de justement sonner l'alerte à absolument tout ce que M. Trump fait parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont parfaitement légitimes. Il y a des choses qui sont monnaie courante dans d'autres pays qu'on considère des pays occidentaux normaux, comme par exemple enlever le droit du sol. Mais la façon que c'est fait, t'sais, il faut aller chercher, il faut faire preuve d'une grande prudence à dire, ouais, ça, c'est inquiétant et ça, on devrait vraiment peut-être regarder ça de plus près. Tandis que, bah, toutes les autres choses, non, on n'a pas besoin de sonner l'alarme chaque fois que M. Trump ramasse un stylo pour signer un décret.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h.
Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
OK, c'est le temps de préchauffer ton four. Tes chums sont invités, puis tes prédictions sont faites parce que la grande finale de football est à nos portes.
Boulevard 102.1 offre un touchdown à ton salon et va te faire vivre la frénésie digne des plus grands stades.
Cette semaine, écoute Boulevard 102.1 pour découvrir quel est le salon de rêve de nos animateurs à inscrire au blvd.fm. Tu pourrais gagner 3 250 $ d'électronique chez Stéréo Plus. Ça, c'est une grosse nouvelle TV, une barre de son et tout ce qu'il te faut pour pimper ta maison en terrain de jeu ultime.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement, dans le cadre de la Poutine Week, la Poutine Club Sandwich, garnie de poulet rôti, tomates, bacon, mayonnaise et d'oignons verts.
Vous avez des varices qui vous gênent? Des symptômes de fatigue dans les jambes, d'enflure ou la sensation des jambes lourdes? À la Clinique de phlébologie de Québec, notre équipe de 5 médecins phlébologues peut vous aider. Pour plus d'informations, visitez ven.ca.
C'est la Poutine Week au Compte à Compte Le Bourgneuf. Cette année, on voit double avec 2 poutines disponibles. Une pour le déjeuner et une pour le dîner et le souper. Oui, oui, disponible du 1er au 7 février en 2 versions décadentes. Visitez côteacôtegrill.com pour plus de détails.
Les fenêtres CPL vous souhaitent bonne année. Que ce soit pour vos petits ou grands projets, nous sommes là pour vous aider dans vos soumissions et vos recherches. Les fenêtres CPL, votre manufacturier de fenêtres Concerto dans la région de Québec. Les fenêtres CPL, offrez-vous la qualité au meilleur prix.
Chez Liquidaire, pas besoin de casser ton cochon pour acheter le confort. Produits de chauffage électrique Ouellet, thermopompe, éclairage, échangeur d'air, plancher chauffant et borne de recharge pour voitures électriques. Découvrez les promotions au liquide-air.ca. Liquidaire, le confort livré chez vous.
Le beau-frère est toujours volontaire pour aider à peinturer. Mais ton beau-frère, c'est pas un expert depuis 25 ans en peinture commerciale et résidentielle. Il laisse pas ça propre et la finition laisse à désirer. C'est pour ça qu'il y a Pinko, les vrais pros. Pinko.ca.
Viens t'amuser à Gogoni Doudoune au quai de l'espace 400. Ours d'escalade géant. Symposium carnavalesque présenté par l'épine cloutier Atos du 7 au 9 février. Dégustation animée avec chef de renommée les 8, 9, 15 et 16 février et bien plus. Navette Vidéotron gratuite entre le parc de la francophonie, le quai Chouinard et l'espace 400. Viens jouer dehors tous les week-ends de janvier, les 1er et 2 février et durant le carnaval du 7 au 16 février. Entrée gratuite, activité payante. Gogoni et Doudoune, une production du Carnaval de Québec.
Vous cherchez un entrepreneur pour la construction de votre maison ou pour des rénovations qui vous assurent une qualité de construction exemplaire? Construction Maurice Bilodeau, avec son équipe fiable et compétente, vous accompagnera à chaque étape avec son service client irréprochable. Visitez le mauricebilodeau.com.
En ce moment, la pénurie de main-d'œuvre est un enjeu important pour toute l'industrie manufacturière. Leclerc Robotique vous propose la solution. L'automatisation de vos procédés de production réduira vos coûts et risques d'accident. De la conception à la mise en route, Leclerc Robotique.
Hey Martin, entre gars, là, toi tu fais quoi quand tu te barres le dos parce que t'as pelleté trop fort?
PCN!
Pis quand t'es encore raqué parce que t'as voulu impressionner tes chums au hockey?
PCN! Je te le dis, Gab, note ça, parce que PCN s'occupe de tout. PCNphysio.com.
Moins de motivation pour cuisiner? Laissez Bouffe et compagnie réchauffer vos soirées. Repas savoureux, prêt en quelques minutes. Fini les casse-têtes pour le souper. Découvrez un nouveau menu chaque semaine, simple et sans tracas. Bouffe et compagnie, votre allié gourmand cet hiver. Visitez bouffeessi.com.
Les événements Emploi Éclair, c'est la version professionnelle du speed dating. Un concept unique, simple, rapide et 100% gratuit. Suivez-nous sur Facebook et sur événements avec un S, emploieclair.com, avec la partie participation financière de la Ville de Québec.
Tu cherches l'amour, mais t'as pas encore trouvé ta douce moitié? Inquiète-toi pas, mon ami. Au croque-en-bouche, le seul ghosting que tu risques, c'est ton dessert qui disparaît trop vite. Pour la Saint-Valentin, offrez-vous l'amour en version sucrée. Croque-en-bouche sur Saint-Joseph, l'amour commence ici.
Votre retraite vous préoccupe? Vous vivez des changements de vie importants, tels un nouvel emploi, une séparation ou le décès d'un proche? Vous vous demandez si vous utilisez toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements? Je suis Marc-Antoine Reed, planificateur financier de Rage Against le matin à Boulevard. Enrichissez-vous en toute tranquillité et bénéficiez d'une deuxième opinion et d'un plan financier vivant en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Service financier, Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833 ton plan.
Transformez votre espace avec Armoire Lévis. Découvrez nos armoires sur mesure, alliant style et fonctionnalité. Que ce soit pour votre cuisine, votre salle de bain ou votre rangement, nous avons la solution parfaite pour vous. Donnez vie à vos projets. ArmoireLévis.com depuis plus de 45 ans.
Pensez à Rivière-du-Loup et son parc hôtelier de 1200 chambres pour organiser vos événements d'affaires ou vos vacances. À seulement 2 heures de Québec, cette région du Bas-Saint-Laurent est accessible et époustouflante grâce à sa vue sur le fleuve. Réinventez vos événements d'affaires. Communiquez avec Tourisme Rivière-du-Loup.
Vous rêvez d'un espace de vie sur mesure? Chez Construction et Excavation YB, on transforme vos idées en projets concrets. Rénovation, construction neuve, agrandissement, on vous garantit un travail de qualité et une satisfaction client à 100%. Prêt à démarrer votre projet? Construction, excavation, YB.ca.
Janvier. Sobab est là pour vous réchauffer. Chez Sobab, on réchauffe tes matins depuis 36 ans. Machine automatique Jura, manuel Lélite, café en vrac à profusion. Puis on répare même ta machine qui fait la grève. Sobab.com, ton café, ton refuge d'hiver.
C'est la vente annuelle Matelas Dauphin. La vente qui vous offre des prix exceptionnels, plus taxes payées sur tous les matelas. Économisez des centaines de dollars, plus taxes payées sur tous les formats de matelas alcôve ultra confortable, avec plateau coussiné, garantie 15 ans, dont le format double, en spécial à 589 $ taxes payées. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, la force du fabricant.
C'est les prix coupés chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont la poitrine de poulet désossée sans peau à 4,44 $ la livre, une livre de fraises à 2,44 $ pour les membres et les couronnes de brocolis à 99 cents chacune. plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
L'offre extra est arrivée chez Ben et Compagnie. À l'achat d'un repas cuisse ou d'un repas poitrine à prix régulier, on vous offre une soupe ou on remplace votre frite par une poutine gratuitement. C'est ça l'offre extra. Parce que chez Ben et Compagnie, on a le poulet généreux. Cette offre est valide jusqu'au 3 mars.
Votre salle de bain a plus de couleurs que le pain sandwich de votre belle-sœur?
Il est temps de faire appel à des pros pour vos rénos.
Rénos Céros. R-E-N-O-C point R-O-S, entrepreneur général en rénovation résidentielle. Suivez-nous sur Facebook ou renoceros.com.
102, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
B-L-V-D.
Boulevard.
102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Martin Vril est avec nous ce soir pour les prochaines minutes. Puis je suis persuadé que les auditeurs sont très contents d'entendre Martin Vril dans leur radio sur 102.1. Tu as fait des années dans les médias. Tu t'ennuies-tu des fois quand tu vois des histoires passer? Tu dis « Ah, moi, j'aurais aimé ça, faire cette histoire-là. » Ça t'arrive-tu des fois?
Oui, ça m'arrive de me dire « J'aurais fait ça différemment. »
Ah oui?
Oui, c'est je suis un peu déçu... De ce qu'on voit maintenant là,
ouais.
à la télé. C'est sûr que c'est plus pareil comme avant. On le sent. On sent que les journalistes sont là pour être un peu les porte-parole de la station. Puis bon, écoute, va-t'en à telle place, puis tu diras telle affaire. Puis,
tu liras ce qui est sur le communiqué.
C'est ça. Fait que on sent que il n'y a pas autant d'ardeur qui est mise comme dans notre temps où les histoires, on les trouvait, nos histoires, on les fouillait. Alors, c'est plus pareil comme avant. Puis, je regarde ça aller, puis je me dis, oh, est-ce que je suis parti juste dans le bon temps. Juste dans le bon temps. J'ai pas connu la pandémie. Ça, j'aurais détesté connaître la pandémie à la télé. Ça a dû être atroce. Comme journaliste, je parle. Et puis, maintenant, ce que c'est rendu, non, j'ai pas d'intérêt du tout. Ouais. J'ai pas de regrets. Je suis parti quand même de la télé à 56 ans. Et j'avais 58 quand j'ai quitté Boulevard ici. Donc, c'était mon objectif. Je me dis, ouais, c'est beau. 35 ans dans le monde des communications, bien assez de stress comme c'est là. Parfait.
Tes débuts soixantaine, il te reste encore plein d'énergie parce que tu as l'air d'un gars de 50. Qu'est-ce qui te reste à accomplir? As-tu des choses que tu veux faire encore que tu te dis, OK, ben là, pour les prochaines années, je vais me concentrer là-dessus?
Bien, actuellement, je fais quelque chose de très passionnant, je te dirais. Je suis guide touristique et chauffeur pour la compagnie Unitour, les tours du Vieux-Québec.
OK.
Donc, le bus rouge que vous connaissez en ville.
Là, étages?
Deux étages, pas de top, là. Ben, je conduis ça.
T'es sérieux?
Et c'est tellement le fun.
Deuxième étage, aujourd'hui, ça doit être assez raide, là, mais...
Ouais, un bus deux étages dans le Vieux-Québec, c'est un peu rock'n'roll. J'aime tellement ça. Ce que j'aime, c'est le contact avec les gens.
Ouais.
Et puis, on a tellement une belle ville. Et je la connaissais pas, ma ville. On pense qu'on la connaît. Et j'invite les gens à venir faire un tour de bus rouge. Ils vont dire, « Hey, on apprend tellement de choses. » Puis c'est rien, là, ce qu'on apprend dans le tour. Parce qu'il y a beaucoup plus que ça à connaître de notre ville. Mon Dieu qu'on ne la connaît pas. Puis quelle belle ville extraordinaire. Il faut faire des tours de ville ailleurs, comme j'ai fait pour dans d'autres villes, pour comprendre qu'à Québec, là, wow! C'est un gros wow, puis c'est pas pour rien que les gens nous le disent. Et de travailler avec le public, c'est tellement le fun, c'est gratifiant, les gens sont de bonne humeur, puis tu leur racontes de quoi, puis ils t'écoutent, tu sais, ils sont aux aguets.
Ouais. Mais tu racontes des histoires, t'as toujours aimé raconter.
Ouais, je suis anecdotique un peu, mais en même temps, ben, tu sais, j'aime parler de ma ville. C'est tellement une belle ville, et puis on a cette chance-là de, pas d'enseigner, mais de faire connaître notre ville.
Ouais.
Qui a une histoire extraordinaire, qui a un cachet vraiment particulier, qui est phénoménal. Là. Tu sais, c'est beau en tabarouette, là. Puis c'est excitant d'apprendre un peu toute l'histoire de Québec, les Français, les Anglais qui sont arrivés, puis comment ça se fait que vous parlez français. Puis les gens sont curieux, posent beaucoup de questions, puis se demandent pourquoi Québec, là? Ouais, mais c'est parce que Québec... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Québec?
Là où le fleuve se rétrécit.
Là où la rivière se rétrécit, voilà. En langue algonquine. Ouais. Alors, exactement. Je savais pas ça. Alors, tu sais, ils comprennent pourquoi les Français ont établi Québec à cet endroit-là, parce que c'est l'endroit où le fleuve est le plus étroit et ça nous permettait de contrôler la navigation, le trafic des bateaux sur le fleuve. Alors, c'est pourquoi les Français se sont installés là. C'était stratégique à l'époque parce que la navigation... C'était très important. Écoute, on se ramenait jusqu'au Grand Lac, là, par le fleuve Saint-Laurent. On rentrait à l'intérieur du continent. C'était important, ça, pour le transport des marchandises. Alors, tout raconter, toute cette histoire-là, c'est super passionnant.
Là, on m'a dit que tu faisais ça en français, en anglais, en polonais et en mandarin. Bon.
J'aimerais bien ça. Mais français-anglais, ça va aller. Ouais. Et puis, les Américains sont vraiment extraordinaires.
C'est le fun.
C'est le meilleur public qu'il n'y a pas.
T'as l'air à triper.
Ils sont curieux,
t'as l'air
posent des questions.
T'as pas de l'air stressé.
Exactement. Je voulais pas finir mes jours à stresser comme j'ai stressé. Parce que la radio.